Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Ah, cette charmante musique que j'apprends à apprécier à chaque fois qu'elle va, parce qu'il faut que je la mette au futur, c'est la première fois qu'on l'entend, c'est notre nouveau thème musical pour une tasse de tech balado qui existe, n'est-ce pas, depuis longtemps, quand même, on est en plein milieu de la saison 6, mais nous avons une grosse nouveauté pour l'année 2022, nous sommes officiellement en studio au sein du groupe C23 de la grande famille Cogeco, Alain Mécanin ici qui anime depuis le début cette balado incroyable et qui est co-animée par mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal!
Bonjour Alain, content de te revoir en 2022.
On a pris une petite pause, hein? on pensait aller faire un petit tour au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Finalement, toi comme moi, je pense qu'on a annulé à la dernière minute parce que Omicron, ouais. N'est-ce pas? Qui pourtant devrait sonner comme une application mobile ou un réseau social très cool. Et non, ce n'est pas ça du tout.
Et on n'a pas été les seuls à annuler. Hein? Il y a eu le quart des participants de la dernière année en personne, 40 000 au lieu de 120 000 participants.
Ah oui, il y a eu très peu. Il y a eu la moitié des exposants, je pense. Ça n'a pas été...
C'est ça, 40 000 au lieu de 160 000 participants, mm-hmm. Et puis il y a eu la moitié des exposants qui étaient présents, et certains kiosques étaient pratiquement vides, certains kiosques, il y avait un code QR pour savoir avoir des informations sur l'entreprise.
Exact.
C'était pas une grande présence, donc on n'a pas manqué grand-chose. On va remercier nos partenaires, parce qu'on a des nouveaux partenaires cette année.
Ben écoute, saison, oui, exactement.
On a Microsoft et TELUS qui se joignent à nous. On a toujours notre beau partenariat café avec la nouvelle machine Jura E8, mm-hmm. Une machine à café entière automatique. Juste en parler, j'ai le goût du café dans la bouche, j'en ai envie d'un autre. C'est une machine qui est entièrement automatique, elle transforme du café en grain en boisson de votre choix. Il y a une petite chute pour du café en poudre si on le désire. Du café est déjà moulu si on désire un petit décas son après-midi, par exemple. Mm-hmm. Il y a un affichage avec un écran pour le choix des boissons, l'ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour que l'eau goûte bon et empêcher l'accumulation de tartre, et le nettoyage est super facile du dispositif avec des enzymes pour le lait. Vraiment une belle machine, la Jura E8 et son distributeur Edeka.
J'ai appris, parce que sur cette machine-là, il y a un petit écran couleur qui nous permet de sélectionner la boisson qu'on veut. Et grâce à cet affichage-là, en fait, j'ai réussi à découvrir d'autres façons de faire le café que je ne connaissais pas avant et qui maintenant sont dans mon espèce de rotation régulière de café.
Oui.
Ça mène à être caféinomane, ces affaires-là. C'est...
Plus de mousse, moins fort, vraiment. Là. Et le cortado est particulièrement génial. C'est un petit peu de lait, un petit peu de café, un espresso avec un peu de lait et que c'est bon.
Ben, juste le café et l'americano, là... Pour moi, ça change. Ben, ça n'a pas changé ma vie. C'est quand même bien juste du café, mais sérieusement, ça s'ajoute à ma très courte liste de boissons que j'apprécie.
Ça, c'est la partie tasse du podcast. On remet dans
la partie tasse. Juste dire en passant, je sais que tu as mentionné un nouveau commanditaire. On a aussi un nouvel habillage visuel. Vous avez remarqué sans doute. Mm-hmm. Nous sommes passés du rouge au jaune, qui est donc une belle couleur. C'est une couleur chaude et réchauffante alors qu'il fait froid en ce mois de janvier 2022. Mais... c'est pas parce qu'il fait froid qu'il se passe rien. Beaucoup d'actualités. Pascal, je te laisse nous présenter le segment.
Oui, l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Info. Bref, toute l'actualité de la journée sans flafla. Directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. C'est moi qui fais les pubs, c'est moi qui fais les promos. Donc, première nouvelle, la guerre du vidéo en streaming. C'est toi qui vas, je pense, présenter cette nouvelle-là pour commencer.
Écoute, ça commence l'année en force. Microsoft, ceux qui suivent l'actualité un peu l'ont vu, le Microsoft a acheté, ou en tout cas a proposé d'acheter pour 69 milliards de dollars américains. Activision, Blizzard, ça ferait de ces deux entreprises-là, quand ça va se régler, le troisième plus gros groupe dans le jeu vidéo au monde. C'est énorme. C'est un gros montant. Je parlais des experts dans l'industrie qui disaient ouais, Microsoft ont vraiment mis la totale, mais on le sait historiquement, Microsoft paye toujours très cher pour les acquisitions qu'ils font. Et clairement, ça leur profite bien. C'est la deuxième plus grosse entreprise cotée à la bourse en ce moment. Donc, on va pas dire qu'ils font pitié. Ça, c'est annoncé. Ça fait réagir. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le lendemain de l'annonce, Sony, son titre en bourse chutait de 13%. Perte de valeur de 20 milliards. C'était quand même assez gros. Clairement, les investisseurs ont à l'œil le secteur parce que ça amorce, ou en tout cas, ça semble indiquer une tendance vers les acquisitions, fusion-acquisitions. On est dans un monde, dans le jeu vidéo maintenant, où on parle plus seulement de consoles ou de jeux pour PC ou de jeux mobiles séparément. On parle vraiment de multiplateformes. Et ça, c'est provoqué par un phénomène qui s'appelle le jeu à volonté. Je pense qu'on va inventer un verbe. On va dire c'est la Netflixisation.
Oui.
du jeu vidéo. Hein? Il y a l'ubérisation, ça c'est le nouveau terme à la mode. Et la preuve en est que Google Play Games, qui est une application pour jeux Android, vient d'être lancée sur PC, sur Windows 11 par Google. C'est la même application, c'est le même environnement que celui de jeux vidéo sur les téléphones Android qui va être porté sur Windows 11. Parce qu'on le sait, Windows 11 contient tous les outils nécessaires pour avoir des applications Android qui fonctionnent sur un ordinateur personnel. Donc Google, très à l'affût, elle aussi, a lancé cette plateforme-là. Va l'essayer en Asie, dans quelques petits marchés en Asie au fil des prochains mois. Mais on voit très bien la tendance se dessiner. Et c'est pour ça que les investisseurs et les experts regardent Microsoft aller. Ils sont satisfaits du mouvement parce qu'il y a, il y a un mouvement de masse vers ces services à volonté, ces buffets de jeux vidéo auxquels on va s'abonner, auxquels on va accéder, que ce soit sur son téléphone, son PC ou sa console, ça s'en vient. D'ailleurs, et je terminerai l'actualité là-dessus, la rumeur veut que, parce qu'évidemment Sony vient un peu de se faire tirer le tapis de sous les pieds là, avec la transaction de Microsoft et Activision, semble-t-il, et je ne sais pas, il faut vérifier, que Sony aurait l'œil sur Ubisoft. Activision, on le sait, avait des problèmes au niveau de la direction. Il y avait des enquêtes internes pour des comportements inappropriés, du harcèlement sexuel, des choses comme ça. Et c'est une des raisons qui aurait mené à la vente de l'entreprise. Ubisoft a eu son épisode du genre très triste l'an dernier. Je ne sais pas si M. Guillemot suit l'actualité de près ou si c'est où il en est par rapport à ça. On sait qu'Ubisoft est coté en bourse, donc il n'y a rien qui empêcherait une offre d'être faite. À suivre, n'est-ce pas?
Le cours de l'action d'Ubisoft, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner.
Exactement. Parle-nous de YouTube, Pascal.
Oui, c'est le début de la fin des vidéos YouTube Originals.
Ah oui?
Oui, c'est très drôle parce qu'on l'a à peine vu passer parce que ça n'a évidemment pas eu le succès qu'on espérait.
Ouais.
C'est un service qui a été lancé en 2016, un service qui était payant à l'époque. Ça voulait offrir des vidéos et des films à volonté. Tu sais, on parle de Netflixisation. En 2016, YouTube a dit, on a des vidéos, faisons comme Netflix et faisons des sous. Mm-hmm. En 2019, on a abandonné la formule payante. Et donc, c'est pour ça que Cobra Kai, qui était un YouTube original, s'est retrouvé sur Netflix.
Oui, c'est vrai.
Donc, à quelque part, je remercie cette décision-là, parce que c'est une super bonne série, Cobra Kai. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. En tant que personne qui vit encore dans les années 80 un peu, c'est très drôle. Donc, la formule est passée à du contenu gratuit original, des vidéos des célébrités et des programmes éducatifs. Disons que ça penchait beaucoup plus sur vidéos des célébrités. Lisons là-dedans influenceurs.
Ouais.
Bref, YouTube voulait devenir un nouveau Netflix, un diffuseur qui veut contrôler le contenu. Ils ont investi près de 30 milliards de dollars dans YouTube Originals. Donc, ils ont quand même donné des sous à beaucoup de créateurs. Près de 30 milliards de dollars, c'est fini.
Ouais.
Suzanne Daniels, la patronne, avait annoncé d'ailleurs qu'elle allait quitter le 1er mars, la direction de YouTube Originals. Donc, ça a un peu précipité la décision. Évidemment, le fait que ça marchait pas très bien, c'est une autre bonne raison. Mm-hmm. On va continuer de financer des courts-métrages, les Black Voices Fund et des vidéos de live shopping.
Ah bon? C'est indicateur d'une culture chez Google parce qu'avec Stadia, c'était la même chose. Le studio qu'ils ont ouvert à Montréal il y a quoi, 2 ans, je pense. Qui a été fermé peu de temps après. Je pense qu'eux, ils pensent qu'on met de l'argent dans quelque chose et pouf, ça va arriver.
Mais les gens vont le faire. Hey, YouTube, Netflix a réussi, on va faire pareil. C'est comme on va faire un vidéo viral, ce concept-là.
Ben oui, soyons viral.
On va faire un vidéo viral. Ça fait de même. On décide que c'est... Moi, quand je vois de toute façon que la vidéo de Baby Shark a dépassé 10 milliards de vues, moi, je me doute tellement de l'âge moyen du public de YouTube. Là, on n'en parle jamais, là.
Mm-hmm.
Mais... Baby Shark, on s'entend là que quelqu'un qui l'écoute tant de fois, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement beaucoup de sous, puis nécessairement qui a beaucoup de dents, nécessairement beaucoup de cheveux, pas parce qu'il est âgé, parce qu'il est très très jeune.
À l'autre bout du spectre, effectivement.
Si, toi tu veux nous parler du 5G qui embête les lignes aériennes, mais comment ça va se passer au Canada? Et là, les conspirationnistes vont dire, on sait que les ondes, ça fait quelque chose.
Ben, la 5G a le dos large pour plein de raisons, mais celle-là mérite quand même d'être étudiée de plus près, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que la FAA aux États-Unis, qui est l'autorité aéroportuaire, entre autres, et que des compagnies aériennes demandent aux fournisseurs de services sans fil de faire attention aux aéroports dans le déploiement de leur réseau 5G, bien sûr, mais pas de 5G actuel, la 5G de prochaine génération. On parle de services qui auraient été mis en service à la fin 2023. Donc, c'est pas quelque chose qui allait se passer dans les prochaines semaines. Mais dans les prochaines générations de 5G, il y a des fréquences qui font peur aux avionneurs. Ils craignent que les fréquences en question vont... interférer avec celles utilisées par certains avions au moment du décollage et de l'atterrissage. Et s'il y a un moment quand on est à bord d'un avion où on ne veut pas que ça aille tout croche, c'est vraiment à ces moments-là, parce que sinon ça va aller mal. Bon, évidemment, au niveau des fournisseurs sans fil, on disait non, il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Là, il y a eu beaucoup de conversations. Il a fallu que le président américain Joe Biden s'en mêle pour calmer un peu les esprits puis trouver une entente. Là, finalement, AT&T et Verizon, qui sont les deux plus gros fournisseurs aux États-Unis, ont dit OK, on va faire quelque chose. On ne mettra pas d'antenne à 3 km, dans un rayon de 3 km de tous les aéroports aux États-Unis. Et on va étudier la question et on y reviendra plus tard. La question est la suivante. Au Canada, les fournisseurs sans fil ont payé 7,2 milliards de dollars l'été dernier pour réserver des fréquences qui sont essentiellement les mêmes que celles qui posent problème aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici à ce moment-là? Il y a deux choses qui rendent la situation peut-être un peu moins grave ici. Premièrement, ben là, on le voit déjà se produire aux États-Unis, fait qu'on peut, prévoir qu'il va y avoir des conversations. Mais il y a aussi le fait que quand les enchères ont été mises en place par le gouvernement fédéral, il y a des licences, évidemment, qui étaient géolocalisées. Donc, il y avait des endroits très spécifiques géographiquement qui étaient déterminés dans le cadre de ces enchères-là. Et il y avait des zones d'exclusion où se trouvaient les aéroports. Donc, vraiment, on était prudent par rapport à ça. Et malgré tout ça, il y a des endroits en Asie, entre autres en Corée, où ces fréquences-là sont utilisées près des aéroports. Et jusqu'à ce jour, aucun cas d'interférence réelle n'a été rapporté. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Et c'est un peu ça le problème. On veut éviter les interférences parce que si ça arrive, ça serait catastrophique. Donc, on imagine que, vu qu'on a un peu le temps pour voir venir et qu'on a déjà prévu un peu la chose au niveau canadien, que ça va se stabiliser. La bande de fréquences en question, c'est dans les 4 GHz, c'est très haut là, dans le spectre des fréquences, et il existe des fréquences dans les 3500, entre autres, GHz, où c'est moins problématique, mais les services seraient les mêmes. On le sait, la prochaine génération de 5G, c'est à peu près pas de latence, là, c'est 8 millisecondes et idéalement, je pense que ça reste quand même utopique, une bande passante comparable à de la fibre optique, donc on n'est pas rendu là encore, mais pour que ça arrive, ça prend des fréquences très élevées et c'est là où ça va achoper. Mais encore une fois, on a encore une couple d'années avant de voir ça arriver. Parlons de crypto-monnaie, mon cher ami.
Oui, le PDG Chris Marzalek, on dirait un joueur de hockey. Chris Marzalek a admis que les comptes d'environ 400 clients de Crypto.com, un site d'échange de crypto-monnaie, ont été compromis.
C'est un gros site, ça. C'est un des plus gros, non? Ils n'ont pas racheté une équipe de sport, d'ailleurs?
Mais écoute, ils ont payé plusieurs milliards de dollars, plusieurs millions,
ça dure. Ouais.
Ils ont payé 700 millions de dollars pour avoir le droit de nommer le stade Crypto.com Arena à Los Angeles. Donc, avant, c'était le Staples Arena, je crois, où jouent deux équipes. Malheureusement, je ne pourrais pas les nommer. C'est moi, le gaming et le sport professionnel. Pour moi, c'est deux domaines complètement différents. C'est pour ça que Chris Marzalek, je trouve que ça sonne comme un gardien arrière là, d'une équipe de sport. Quand il mange le baseball ou quelque chose, imagine.
Ouais, donc, OK. Gardien arrière.
Un gardien arrière. Donc, je mélange mes métaphores sportives. Donc, il y aurait 400 clients qui auraient perdu leur compte. Leur compte aurait été vidé de leur contenu. Les comptes ont été remboursés, donc, pour les utilisateurs. Crypto.com, c'est un site d'échange de crypto-monnaies. Donc, c'est une espèce de transit où on envoie la
crypto-monnaie. C'est un petit portefeuille de numérique.
On stocke, on échange. Et donc, c'est si le transit se fait pirater, si les clients qui confient leur Bitcoin, leur Ethereum et leur c'est Dogecoin, à l'échange de crypto-monnaies disparaissent, c'est pas le fun. Donc, les comptes ont été remboursés. Ils ont dû cependant faire une pause des retraits du site dimanche quand ils ont constaté des activités suspectes. On parle d'environ 15 millions de dollars américains, l'équivalent en Ethereum. C'est de l'Ethereum qui aurait été volé. Ouais. Le coût de la fuite, évidemment, au total, est probablement beaucoup plus élevé. Je disais 38 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Simplement les coûts en réputation, en réparation. Ils ont perdu l'argent. Il faut qu'ils remboursent les gens, donc c'est au minimum le double. Ce qui est fou, c'est que cette compagnie-là est en pleine campagne de promotion monstrueuse. Oui. En achetant pour ces 100 millions le droit de nommer un stade le Crypto Arena, Crypto.com Arena, que ça se dit pas bien. Et ils ont fait des publicités avec Matt Damon. Quand j'ai vu ça, je me disais, OK, c'est une parodie de Saturday Night Live. Là. Et là, tu as Matt Damon qui s'avance et qui dit « La fortune sourit aux audacieux, Crypto.com. »
Et aux pirates informatiques.
Matt Damon, c'est comme « Wow, OK, on va vraiment chercher quelque chose. » J'ai lu aussi dans une nouvelle parallèle, donc avec le fait que l'échange de crypto-monnaies s'est fait un petit peu pirater, qu'il y aurait 30% des bitcoins qui valent moins que ce qui ont été payés pour.
Ah bon?
Ce qui, selon certaines personnes, disent « Oh, si ça va peut-être remonter. » Puis d'autres personnes disent « Au contraire, ça ne remontera pas. Gardez vos sous. » On arrive à un seuil. J'ai hâte de voir dans 20 ans combien va valoir le bitcoin.
Ben, il n'y a rien qui indique que ça ne va pas continuer à être spéculatif comme cela en ce moment, donc ça va probablement continuer à fluctuer. Est-ce que ça va se stabiliser un jour? C'est sûr qu'il y a un phénomène générationnel. Beaucoup de jeunes acheteurs de crypto qui vont devenir plus vieux, évidemment, et qui vont être évidemment vont être suivis par des plus jeunes investisseurs, et ça va créer un marché plus grand, mais ça reste très spéculatif.
On touche du bois. Et moi, je crois que sincèrement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs, et je mets ça en guillemets avec mes doigts, là, des air quotes, il y a beaucoup d'investisseurs dans les crypto-monnaies qui confondent crypto-monnaie et loterie. Parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, quand on investit dans beaucoup de crypto-monnaies un peu obscures qui pourraient monter, ça devient très, 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 très spéculatif. Puis entre quelque chose de très spéculatif et un billet de loterie, on est pas mal là, dans la même zone de risque et de retour possible.
Ben, mais, on rêve tous d'être millionnaires du jour au lendemain, n'est-ce pas?
Exactement. Puis la journée où tout le monde va vouloir encaisser sa crypto-monnaie, parce que ça part de, ça valait rien, là. Cette monnaie, ça se met à valoir des millions. Mm-hmm. La journée où on va vouloir commencer à transiger sa crypto-monnaie, selon moi, l'inflation va arrêter. Là. Ça peut plus. Il faut que ça se stabilise à quelque part. Très hâte de voir, Alain.
Oui. En tout cas, à suivre cette histoire avec crypto.com. Il y en a plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie qui existent et ils sont pas plus à l'abri des failles que d'autres. Donc, à suivre. Parlant de crypto et de technologie émergente, ça va être pas mal plus intéressant de suivre ça. On revient, on prend une petite pause et on revient avec le groupe Juste pour rire parce qu'ils se lancent dans les NFT, les fameux jetons non fongibles. Et c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Ce deuxième segment d'une balado historique, un épisode historique d'une tasse de tech pour sûr. Écoutez, on a de la musique maintenant pour nos segments. On n'avait pas ça avant. C'est une petite évolution, n'est-ce pas? Et puis en plus, il y a un petit côté Stranger Things à cette musique. Donc, je ne sais pas si on est dans un univers parallèle, mais on va parler de choses très, très émergentes qui font penser un peu à un futur proche, pas tellement parallèle. Je te laisse présenter le segment, Pascal.
Exactement. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. GoDaddy.ca. Je te dis un coup d'œil. Si tu as besoin d'un site web, GoDaddy.ca.
Voilà. On va parler d'NFT, les fameux jetons non fongibles. Ça fait un petit bout de temps qu'on en entend parler, puis ça reste encore très abstrait, au-delà du fait qu'on peut payer une petite fortune en Bitcoin pour avoir des fichiers JPEG à soi. C'est pas clair pour bien des gens qu'est-ce que c'est exactement. Le groupe Juste pour rire a quand même décidé de se lancer à l'aventure dans cette aventure, je devrais dire. Et effectivement, il y a un filon intéressant pour en parler davantage. On a Charles Descarry, qui est le président directeur général du groupe Juste pour rire. Monsieur Descarry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Juste résumez-nous pour partir, parce qu'il y a beaucoup de mots-clés dans cette phrase-là. Le groupe Juste pour rire se lance dans les jetons non fongibles. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
En fait, c'est une évolution un peu naturelle de ce qui nous arrive depuis 2 ans. Vous le savez peut-être, on s'est lancé dans la production de festivals digitales forcés par la pandémie. Mm-hmm. Donc, on a eu en 2020 un premier festival digital pour lequel il y a 750 000 personnes qui nous ont suivis. L'année dernière, on était en mode hybride. On a eu à la fois des spectacles dans la rue, sur scène, dans les théâtres, mais aussi on a gardé la version digitale, donc un festival hybride. Là, il y a 750 000 personnes qui sont venues. Mm-hmm. Et puis, parallèlement à ça, on a découvert dans le monde du métavers et dans le monde des réseaux sociaux, mm-hmm. les gens consomment énormément de culture. Et on a créé une quinzaine de chaînes, des canaux, là, dans lesquels on distribue du contenu fait au Québec. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 40 millions de personnes à travers le monde qui suivent nos différents contenus, que ce soit des gags, que ce soit du stand-up, à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Donc, on s'est retrouvé avec des scènes digitales où on a maintenant plus de monde qui nous suivent sur ces scènes-là que dans la vraie vie. Alors, c'est un peu ironique. Cette expérience digitale, on s'est dit, bon, on va continuer à la pousser. Et là, l'émergence des NFT, comme vous disiez, Alain, on en parle depuis un an, il y a un phénomène très fort aux États-Unis. Et pour nous, c'était une autre façon d'exprimer l'art du rire, l'art de nos artistes à travers un nouveau médium. Mm-hmm. Alors, ce qu'on a fait, c'était un projet pilote au mois de décembre dernier, dans lequel nous avons premièrement, déblayer le terrain pour savoir comment on allait distribuer ce contenu-là, comment on allait le valoriser, comment on allait payer nos artistes avec ça. Donc, on a fait ce projet pilote. Mm-hmm. Donc, pour nous, et je m'arrête là-dessus, c'était surtout de continuer à procurer à nos artistes des plateformes multiples, c'est-à-dire des festivals, le spectacle de scène traditionnel, de la télé comme on en fait, du web à travers les réseaux sociaux et maintenant des NFT, donc leur offrir la plateforme 360 pour exprimer leur art.
Ben, vous avez fait effectivement ce qu'on recommandait à beaucoup de jeunes depuis le début de la pandémie, qui est l'espèce de virage numérique là, qui permettait d'aller chercher un auditoire plus large dans votre cas. Créateur de contenu sur Internet, on le sait, c'est un potentiel énorme. Là, vous avez lancé cette plateforme d'NFT qui s'appelle Galleria. Et si j'ai bien compris, on peut s'approprier, je ne sais pas si c'est la mascotte comme telle, mais au moins un visuel de Victor qui est votre mascotte au groupe
de Sourire. En fait, vous avez raison. Galleria, c'est notre boutique, si vous voulez, de NFT, qui est sur une plateforme Fanapply, okay, qu'on a dû choisir pour toutes sortes de raisons qu'on va en parler. Et puis, dans cette boutique-là, si vous voulez, on a vendu deux choses. Premièrement, des objets de collection, représenté par, en l'occurrence, une de nos mascottes, notre mascotte. Et les gens pouvaient se procurer donc ces items-là, qui sont protégés par le blockchain, évidemment, dans le cas de NFT. Et il y avait différentes catégories d'objets. Donc, des objets de type exclusif, de type rare, de type légendaire. Et puis, par la suite, on a mis un moment dans notre vie, dans la vie de Juste pour rire, qui était très important. C'est le premier rire d'un de nos galas en 1983. On l'a mis aux enchères.
Wow.
Alors, c'est ça que les gens pouvaient se procurer. Et la beauté de la chose, ou ce qui nous a étonnés, c'est que à la minute qu'on faisait un dépôt, là, un drop, comme on dit dans le langage de l'industrie, nos objets les plus chers se vendaient en moins de 2 minutes.
Wow! Quand vous dites le plus cher, est-ce que vous avez une ordre de grandeur des prix que ça peut aller chercher?
C'est à peu près 250 $ pour un objet de type légendaire. Il y en avait à 15, 20 $ 25 $ Mais ce sont les plus chers qui se vendaient le plus vite, à notre grande surprise. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que c'était les mêmes objets qui étaient remis sur le marché secondaire et qui se vendaient déjà par la suite dans le marché secondaire d'un NFT. Donc, je vous dirais que cette expérience-là que nous avons faite, c'était pas pour faire des gros dollars ou quoi que ce soit, c'était pour vraiment comprendre ce nouveau canal de diffusion-là, comprendre l'appétit des consommateurs et puis de voir qu'est-ce qu'on allait faire à partir de là.
Quand vous parlez d'objets, c'est des objets intangibles. Pas d'objets physiques associés.
Absolument. Ce sont des objets strictement intangibles que vous gardez dans un fichier. mais qui est protégé par le blockchain, comme on le sait. Donc, c'est un objet unique qui vous appartient, qui peut être utilisé soit à l'intérieur de d'autres plateformes de jeux vidéo, ou même nous, quand on va ouvrir certains produits, certains spectacles, s'ils sont détenteurs de cet objet-là, ils vont avoir des privilèges comme, par exemple, des backstage visits ou d'autres types de bonus de ce genre-là.
Parce que ça, c'est ça la deuxième question. Vous avez vendu des images de Victor. Vous avez vendu le premier rire, mais là, bientôt, ça pourrait être une blague de Martin Mac. C'est vers là où vous en allez. Là,
vous me devancez, en fait, parce que... c'est parce qu'on va probablement migrer des objets de collection, qui n'est pas notre créneau, vers des moments. Des moments, puis ce qu'on voit, ce sont des moments, par exemple, des artistes à leur début, et donc ce qu'on appelle les nouveaux talents qu'on pourra capter et immortaliser, si vous voulez, les premiers jours de leur scène. Parce que quand ils deviennent des stars par la suite, ça a une certaine importance. Alors, ça peut être aussi des moments iconiques pendant nos spectacles ou pendant nos festivals, ou des moments représentant une époque. Alors, c'est plus, on s'en va plus vers la captation de moments, de vignettes, si vous voulez. C'est une espèce de vidéo protégée par blockchain et qui vont être mis aux enchères ou qui seront vendus pour des collectionneurs.
Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que je pourrais acheter la clip d'un, je pense que c'est un gala juste pour rire de 1998 où je crois que le comédien s'appelait Robert Lheureux qui disait « La gratte a passé deux morts ». Ça, c'est le genre de moment qu'on pourrait éventuellement se procurer par NFT.
Ben, quand on les mettra, quand on les protégera, quand on créera
c'est
le produit.
C'est à vous de créer le produit
c'est
avant.
C'est à nous de le faire. Okay. D'accord? Mais c'est là qu'on est rendu parce que c'est ça qu'on a vu. Ce sont les moments qui se vendent le mieux. Mm-hmm. Et aussi, nous, on a comme souci de procurer à l'artiste, aux artistes, une plateforme. C'est pas des artistes qui vendent des objets, c'est des artistes qui vendent du contenu. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'on va aller vers le contenu et leur procurer cette plateforme-là pour commencer à être présent dans le métaverse, c'est-à-dire à la fois sur les scènes digitales, mais à la fois avec des produits qui se vendent sur le métaverse.
On va pouvoir parler du métaverse, mais juste avant ma deuxième question, quand vous dites c'est protégé, les gens qui achètent le produit, c'est protégé de quelle façon? C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent le reproduire ou ça peut être reproduit, mais ça leur appartient toujours?
Ils peuvent pas le reproduire. Il est protégé par le blockchain. C'est un moment unique okay. qui est vendu. Donc, la propriété appartient à celui qui l'a acheté.
Si, par exemple, j'obtiens le premier rire, j'ai un fichier audio, par exemple un fichier MP3, mais je ne peux pas le reproduire. Est-ce que c'est un peu ça que
non.
ça donne?
Non. Il est unique, le moment.
OK. Donc, c'est une
le
fois.
Le produit est unique. Le fichier est unique. Il ne peut wow. pas être reproduisible.
OK. C'est quand même quelque chose.
Et ça, la personne l'a acheté 5 000 $. Il ne voudrait pas que oh. ça se reproduise juste par un copier-coller.
Ben, c'est ça. C'est un peu la crainte. C'est un peu ce qui fait que les gens saisissent mal. Parce qu'on disait, par exemple, le Louvre pourrait vendre un NFT, un JPEG de la Joconde qui est exposée là-bas. Puis c'est un peu le même principe. La Joconde, on peut acheter un imprimé de la Joconde à 10 $ dans n'importe quelle boutique souvenir, mais l'original est exposé dans un musée. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas la même chose. C'est pas vous offrez un fichier qui peut être reproduit, mais que l'original appartient à l'acheteur. C'est que l'acheteur a le produit et il est le seul à l'avoir.
Exact. Vous avez très bien défini ce que c'est.
Wow. Ben, merci beaucoup. Je vais refaire une balado là-dessus. vous avez parlé de métaverse et effectivement, c'est plus le fun de dire métaverse que métavers parce que le mot en français n'est pas super le fun, mais est-ce que c'est quelque chose, un environnement que vous considérez au groupe Juste pour rire en ce moment? Ça?
C'est sûr qu'on regarde ce qui se passe. C'est peut-être tôt pour avoir du contenu, mm-hmm. mais un rêve que je pourrais avoir un jour, c'est d'avoir une scène digitale, c'est-à-dire un lieu qui résiderait soit à travers une scène digitale procurée par Facebook, une plateforme comme Facebook, mm-hmm. ou soit sur un jeu vidéo qui offre des performances de spectacle à mm-hmm. l'occasion. Et de pouvoir procurer à nos artistes donc une scène digitale dans laquelle les gens du monde entier pourraient consommer cette culture-là. On est très à l'affût de du développement. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce serait trop tôt. Il y a des expériences qui se font avec Fortnite, en l'occurrence, oui. qui a invité des artistes importants à faire une performance. On suit ça de très près parce que un jour, on va vouloir se présenter avec du contenu sur ces scènes digitales.
Mm-hmm. Ben, j'allais vous demander, est-ce qu'on pourrait voir Martin Matt sur Fortnite ou un humoriste ou même un gala, en fait, ça pourrait arriver parce que le métavers, c'est un concept un peu vague, c'est pas nécessairement un seul environnement, mais dans ce cas-ci, dans le cas de Facebook, évidemment, c'est la plateforme Oculus, mais ça pourrait être ailleurs aussi. Là.
Vous avez raison, et pour l'instant, on considère faire des spectacles qui vont être uniquement disponibles soit sur Facebook, soit sur YouTube, ou des chaînes OTT aussi, qui sont de plus de type télévision, mais, mm-hmm. mais en streamer digital. Donc, on suit ces différentes plateformes-là et on adapte nos contenus et nos artistes, parce que dépendant de l'artiste, il y en a qui sont plus confortables sur certains médiums que d'autres. Et donc, pour venir au métaverse, donc c'est quelque chose qu'on suit de proche parce que je pense pas qu'une entreprise culturelle comme la nôtre peut se lancer dans ce genre de projet au moment où la technologie est rendue aujourd'hui. Ce serait trop tôt, mm-hmm. mais les choses vont vite. Alors, on est à l'affût, nous, de comme curateurs de comédie, de diffuser non seulement notre historique, le bagage de 40 ans d'archives que nous avons, que nous diffusons, mais en même temps rester alerte sur les nouvelles scènes qui vont se profiler à l'horizon, comme on vient de le faire avec le NFT, jusqu'à un certain point.
C'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a quelques mois, il y avait une conférence Microsoft, Guy Laliberté du Cirque du Soleil, qui est maintenant joueur autonome, disons-le comme ça, a présenté une plateforme qui s'appelle Hanai World, qui est exactement le même, ben, pas tout à fait le même concept, mais ça repose sur une plateforme chez Microsoft qui s'appelle Microsoft Mesh. Et lui, il pense plus à des environnements mixtes où il y aurait un concert en personne, il y aurait quelques caméras des endroits stratégiques et il pourrait vendre des places virtuelles dans la scène que les gens pourraient acheter dans le fond et assister à un spectacle à distance dans un environnement de réalité virtuelle. C'est un peu, c'est tout ça bien mêlant et c'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité mixte. Est-ce que c'est un peu dans ce genre-là que vous considérez aller?
Oui et non, parce que M. Laliberté a des intérêts particuliers sur la réalité mixte, virtuelle, ouais, surtout. Nous, c'est, et fatalement, c'est un médium qui nous permet d'être sur une scène digitale, la réalité mixte ou virtuelle. Mm-hmm. Je pense qu'on va être condamné à capter des contenus dans ce format-là pour pouvoir les présenter sur des scènes digitales.
Ah oui.
Pour nous, c'est une façon de capter. C'est pas une fin en soi. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir la scène digitale pour diffuser du contenu. S'il faut le faire en 3D, en réalité virtuelle ou autre médium ou en captation plus traditionnelle, pour nous, c'est de la mécanique, mm-hmm, honnêtement. On s'intéresse moins à cette mécanique que l'art lui-même du rire qui sera diffusé sur cette scène-là.
Est-ce qu'on peut s'attendre à voir un... Vas-y, Pascal, une dernière question.
Moi, j'imagine très bien un spectacle d'humour en odorama. Je pense que la technologie d'odorama prêterait beaucoup, beaucoup à un spectacle d'humour. Mais c'est peut-être juste moi.
La technologie reste à être développée, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourra voir bientôt un premier, peut-être un prototype de spectacle en métaverse du groupe Juste Pour?
Non, pas pour le moment, c'est trop tôt. On est encore au stade où on va produire des contenus dédiés sur le web. Mm-hmm. Ça, vous pouvez déjà en voir. On a déjà commencé. Mm-hmm. Mais je peux pas faire d'annonce sur un échéancier dans le métavers. C'est trop tôt.
Et donc, la galerie, votre plateforme NFT, ça se trouve sur Internet?
Oui, ça se trouve sur Internet à l'heure actuelle, sans problème. Le projet pilote s'est terminé en fin décembre. Donc, en 2022, nous sommes à peaufiner notre stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on va remettre en NFT? Donc, c'est pas encore disponible. Ça va l'être et annoncé au cours de l'année 2022.
On va suivre ça avec intérêt. Monsieur Charles Lécarie, PDG du groupe Juste pour rire, merci d'avoir été avec nous. Pour parler d'NFT, c'est quand même pas rien. Nous, on prend une très légère courte pause parce qu'on veut rejouer le bed musical dont on a hérité maintenant. Et on revient avec nos essais de produits de la semaine.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Oh, il y a un petit côté Black Mirror à cette chanson-là, c'est comme rien. Tu ne l'as pas encore entendu, Pascal, hein, parce que tu es à la maison, mais attends, tu vas l'entendre.
Je suis à la maison et donc je n'entends pas ça. Mais cependant, ce que je me demande, comme je suis à la maison, que je dois me connecter à Internet, qu'est-ce que j'utilise?
Tu dois te protéger.
J'utilise CyberVault VPN, notre partenaire VPN pour la saison. On a plein de nouveaux partenaires à une tasse de tech. On parle de données numériques, de protection de sa vie privée depuis des années. Il faut... Si on veut, pour tenir à notre confidentialité, utiliser les bons outils. Mm-hmm. Et un des bons outils, c'est une application VPN, un réseau privé virtuel en français. C'est un logiciel qui permet de naviguer sur le web en tout anonymat, puisque ça évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Donc, on peut donner l'impression qu'on vient de France, qu'on vient d'Allemagne, qu'on vient des États-Unis, d'un autre pays. Et donc, ça évite de nous cibler avec de toutes sortes de façons, ce que les navigateurs web ne s'empêchent pas de faire. Mm-hmm. Donc, CyberGhost VPN, c'est une application VPN, une des plus populaires sur la planète. Elle a déjà quelques 38 millions d'utilisateurs. Un des avantages, c'est que le service ne conserve aucune donnée de votre utilisation. Vous pouvez, donc, si on parle de vie privée, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez utiliser le VPN CyberGhost avec 7 appareils en simultané. Donc, votre ordinateur, votre sans-fil, votre récepteur de télé numérique, si jamais vous voulez. Et pour les curieux, pour nous, pour les utilisateurs, pour les auditeurs d'une tasse de tech, on a la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Ça va vous aider à vous faire une idée de son utilité. Ça peut être pratique si vous partez en voyage. Les auditeurs d'une tasse de tech ont pour leur part droit à une offre spéciale d'abonnement, 4 mois offerts gratuitement, puis un coût réduit de 85% qui revient à 2,15 $ par mois. Donc, pour en profiter, vous allez sur cyberghost.com/unetassedetech où on va retrouver le lien de réduction dans la description de cet épisode sur notre page Facebook Une Tasse de Tech ou aussi sur notre page YouTube.
Merci, Pascal.
C'est le partenaire de notre chronique test, notre segment test.
Exactement, et je dirais ceci, beaucoup de bien pour un VPN, très pratique. On le sait, hein, sur les nouveaux produits Mac, entre autres, il y a une espèce de simili VPN intégré, donc c'est vraiment un outil qui vaut la peine, donc on est content d'avoir un commanditaire comme celui-là. Parlons de choses québécoises. Pascal, tu as testé, et je comprends tellement pourquoi tu as fait ça, des nouveaux écouteurs Bluetooth qui sont de marque québécoise, les Sounds Good.
Les Sounds Good. Et Alain, je te rends l'honneur. C'est en lisant ton article sur l'entreprise dans Le Devoir que j'ai fait, voyons donc, des écouteurs québécois, des écouteurs Bluetooth, c'est bien cool ça. Je les ai payés de ma poche. Je me suis dit, je vais encourager l'entreprise. Je les ai commandés. Je les ai reçus en 2 jours sur Amazon. Mm-hmm. Sur le site de Sounds Good, on indique qu'ils sont en rupture de stock, mais il semble qu'ils en ont encore quelques-uns si jamais vous les essayez sur Amazon. C'est des écouteurs Bluetooth sans fil de type bouchon, donc qu'on glisse dans ses oreilles. Tout à fait conventionnel. L'emballage est hyper minimaliste, sans flafla. C'est vraiment une toute petite boîte. Il n'y a pas d'emballage sophistiqué. Souvent, quand on reçoit des produits qui viennent de Chine, il y a comme 8 épaisseurs de boîte dans une boîte, dans un très, très simple, très sobre. On veut minimiser l'impact sur la planète. C'est pas des blagues. Ça se sent là-dessus. On disait dans le site que le fil n'était pas compris. Moi, dans ma commande d'Amazon, j'ai un petit fil USB-C qui est inclus. Alors, je ne sais pas si c'est une exception, une erreur. C'est des écouteurs donc qui vont dans les oreilles. Il y a 2 embouts de silicone, des moyens et des petits. D'habitude, il y a un grand. J'étais surpris.
Ah oui?
Mais il y a 4 moyens. Donc, on peut, si on en perd, si on a tendance à les perdre ou à les briser, on peut les remplacer. Il y a 4 moyens, 2 petits supplémentaire, très chouette. J'aime beaucoup parce que la tige, elle est longue dans les oreilles. Encore une fois, c'est très, très personnel.
C'est vrai.
Mes conduits auditifs semblent plus profonds que la moyenne. Et donc, quand j'ai vu que l'embout des écouteurs Sounds Good, des écouteurs québécois, les Ultimate V6 Wireless, entrent bien dans mes oreilles. Donc, même s'il n'y a pas d'annulation de bruit active, il y a une annulation de bruit passive parce que l'écouteur, ben, bouge plutôt bien l'oreille. C'est très correct. Des écouteurs tout à fait de base, il n'y a pas d'application pour les mettre à jour. J'ai pas vu d'application pour les mettre à jour, ça va peut-être venir un jour. Donc, ceux qui aiment bidouiller avec leur réglage changé, le mettre à jour éventuellement, ça semble pas être possible. Pour les appels, on utilise une annulation de bruit CVC 8.0. Honnêtement, je n'ai pas reçu d'appel encore. Je me sers très rarement de mon téléphone. J'ai hâte d'en faire l'essai. On peut écouter les écouteurs un à la fois en mode mono. Des fois, on peut écouter
qu'un seul écouteur. Ou partager avec quelqu'un qui écoute, effectivement.
On peut éventuellement, c'est ça, partager avec quelqu'un si on veut écouter. Il y a une résistance à l'eau IPX5, assez pour une pluie légère, la transpiration. Je ne sais pas si c'est nécessairement assez résistant pour un usage intense de sport ou quelque chose comme ça.
Pas de natation, en tout cas, ça c'est certain.
C'est vraiment très chouette. L'autonomie, et là, c'est drôle parce que là, tout le monde se dit « Oui, mais ils sonnent-tu bien? J'arrive, vous allez être content. Je pense que vous allez être content. L'autonomie annoncée est 7 heures de musique à plein volume. J'aime beaucoup qu'on spécifie 7 heures de musique à plein volume. Donc,
oui, puis le volume, il rentre au poste, là, effectivement.
Si on écoute à volume moins élevé, ça doit être plus long. 5 heures si on fait des appels. Qui fait encore des appels? Pas moi, manifestement. Le boîtier permet de charger ses écouteurs de 4 à 5 fois, donc ça donne un total de 20 à 25 heures d'autonomie avec le boîtier et les écouteurs combinés avant d'avoir à recharger le boîtier. On recharge en mettant les écouteurs dans le boîtier. En mode veille, l'autonomie est de 15 jours, donc si on les laisse sur son comptoir, on pourrait quand même pendant 15 jours. Comment sonnent les Sounds Good? Est-ce qu'ils sonnent vraiment good? Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très correct. Parce que la bonne nouvelle, est-ce que je l'ai mentionné? Ils sont 100$. 100$ canadiens.
Ça les compare à des, on en parlait tout à l'heure, à des EcoBuds d'Amazon, entre autres, plutôt qu'à des AirPods qui sont, les AirPods ne sont pas, il n'y a pas d'insonorisation intégrée, donc ils ont en plus une valeur ajoutée, là.
Non, c'est pas des écouteurs là, comme les AirPods avec la petite baguette qui dépasse. Mm-hmm. C'est vraiment des petits bouchons dans ses oreilles qui sont très confortables par ailleurs. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont ils se tournent dans l'oreille pour bien prendre la forme de la conque. Je pense que c'est comme ça,
exact.
L'intérieur de l'oreille.
Oui, tout à fait.
Comme je te dis. Donc, pour 100$, j'ai trouvé que le son était surprenant.
Je vais te rajouter à ça, parce que je m'en suis servi, moi, pour faire des appels, parce que, justement, j'ai aussi...
Merci, donne-moi ce feedback-là, parce que...
Et ça fait partie des caractéristiques. Ils utilisent un protocole, et je pense que c'est ça, le protocole CVC, c'est que ça permet de couper... Il y a plus qu'un micro par écouteur, et il y a un micro qui capte le bruit de fond et qui l'élimine, donc ça met l'emphase sur la voix. Et pour ce que j'en sais, c'est tout à fait correct. C'est pas, on va pas capoter avec ça, mais ça fait un signal vocal correct. il n'y a personne qui va vous agacer, qui va vous dire « Ah, je le sais, t'es sur un mail libre, hein, là, puis t'es dans la rue, puis alors que t'es dans ton bureau. » Non, ça, ça n'arrivera pas. Fait que c'est bon, c'est pas... C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, je vais dire ça comme ça.
Oui, puis pour la musique, évidemment, ben, veux pas, en tant que chroniqueur techno, Moni, tu viens que tu as les oreilles un peu difficiles quand tu fais l'essai d'écouteurs à 400$, à 500$, qui mettent l'accent sur la qualité. Sennheiser, par exemple, qui mettent vraiment l'accent sur le... Donc, à 100$, c'est sûr qu'on s'attend pas à ça. Mm-hmm. Mais j'ai écouté de la musique avec, tu sais, des grosses basses sales, là. Et puis, j'entendais quand même bien, je ressentais bien la musique. C'est sûr qu'au niveau, on pourrait, c'est difficile, chaque écouteur a son profil. Je l'ai trouvé très satisfaisant pour écouter des podcasts très agréable. À 100$, là, c'est québécois. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du dropshipping. Et là, je pense que ça, tu l'as mentionné dans ton article, oui. Et j'ai trouvé ça super intéressant que tu le spécifies. Le dropshipping, c'est que n'importe qui peut décider de commander des écouteurs de Chine.
En lot.
Et quand quelqu'un le commande, ils sont livrés directement de Chine. Il n'y a aucun contrôle de qualité. On ne sait pas ce que les personnes reçoivent. Eux font de l'anti-dropshipping. Donc, on les reçoit au Québec, on les valide, on s'assure qu'ils sont de bonne qualité. Et on offre une garantie, et j'aime beaucoup, c'est écrit sur le site, une garantie de satisfaction, pas de niaisage de 15 jours. Donc, on peut en faire l'essai sans aucun risque. C'est québécois, là. C'est pas, on ne retourne pas ça en Chine. C'est pas compliqué. C'est une entreprise québécoise super sympathique. En tout cas, d'après, ils font des produits écolos. Ils font toutes sortes de choses très fun. Et si on a un problème, dans un an, on a une garantie pour ses écouteurs. Et c'est au Québec que ça se passe. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas du dropshipping. C'est vraiment, il y a un peu d'amour québécois qui est mis sur chaque produit. Ouais. Si vous avez un pépin, une très, très bonne assurance d'avoir une satisfaction, un service à la clientèle. J'ai bien hâte de voir où cette entreprise-là va aller. Parce que pour la majorité des gens, pourquoi acheter un écouteur autour de 100$ ou même des gens qui se disent « Ah, je veux pas payer cher, 50$. » Hey, payez 100$, vous avez un écouteur québécois, pas de problème, bon service, et puis c'est québécois. Je pense que ça vaut la peine de les encourager.
Il y a eu beaucoup de réactions à l'article que j'ai fait sur eux. « Sounds good, ah, c'est en anglais.
Hey. » Oui, oui. Et ça me pince toujours, ça me pince toujours.
Et les écouteurs sont fabriqués en Chine, mais sont vendus par une compagnie québécoise. Et de toute façon, pour le nom, on peut débattre jusqu'à demain matin, mais eux, leur marché est international. Et ça s'explique de ce point de vue-là. Ça, moi, ça ne m'embête pas tellement. Et l'autre partie, essayer de faire fabriquer des écouteurs ailleurs qu'en Chine, je vous souhaite la meilleure des chances.
Oui, tout à fait.
Les usines sont là-bas. Alors, en attendant de construire une usine de composants semi-conducteurs ici, c'est pas mal la seule option qui reste. Donc, c'est deux très petits bémols.
C'est le fait qu'ils aient le fait qu'ils transitent par le fait qu'ils soient examinés, le fait qu'ils soient validés, ça montre qu'il y a un amour du produit. Là. C'est pas juste de shipper. Parce que souvent, ce qui arrive quand on commande directement de Chine, le contrôle de la qualité est nul. Si t'es pas là pour surveiller ce qui est envoyé, un produit sur deux va être pas bon, les critiques. Et je vois le service, je vois le j'espère qu'ils ont pas acheté. J'espère qu'on n'apprendra pas qu'ils ont acheté des critiques.
Ben, ils ont un agent sur place. Excellent. Et ils achètent en lot, mais ils font certifier le lot. Le V6, voilà. Donc la sixième génération de leurs écouteurs, qui évolue. Là. Ils ont eu différentes versions avant qui n'étaient pas tout à fait du même format, mais effectivement, au moins, ils ont un service à la clientèle très, très, très réel, très existant. Ce sont des gens qui répondent en personne à vos messages et c'est livré et c'est québécois. Donc, ça les aide, ça leur permet à eux, les gens de Sounds Good, de financer leurs autres projets, entre autres des vêtements à l'asclépiade, qui est un isolant naturel qui pousse sans bon sens. C'est quand même une mauvaise herbe au Québec. Et ils ont aussi le projet de faire des accessoires de mode en bois. Ils font une ceinture en bois. En tout cas, c'est un autre projet qui va être mis en marché cette année. C'est intéressant.
Vous allez voir. Des chardes au niveau du bas du corps en enfilant ta ceinture.
C'est pas tout à fait ça. C'est pas comme un gros morceau de bois, comme une ceinture de baril.
C'est plus rigide.
Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Merci Pascal. Sounds Good. Hein. Je pense que c'est soundsgood.ca, leur site, si vous voulez en savoir davantage.
Oui, ça se trouve bien. Écouteurs québécois, Sounds Good. C'est très chouette. Très belle option, 100$.
Merci Pascal. Pour ma part, j'ai essayé, j'ai eu juste avant Noël, j'aurais aimé ça vous en parler avant, mais je vous en parle maintenant parce que bon, on est après Noël, que voulez-vous? Des caméras d'une marque qui s'appelle Mevo. C'est la Mevo Start. C'était jusqu'à il y a un an et demi environ une marque autonome, une société autonome. Mm-hmm. Ils ont été rachetés par Logitech, le géant suisse. On en dit pas, on parle pas souvent de ça, c'est une compagnie suisse. Donc les Logitech Mevo Start sont des caméras. Si on lit la description exacte, c'est des caméras web qu'on peut configurer via une application mobile et utiliser pour faire de la diffusion en direct ou en différé. Concrètement, c'est comme avoir un studio de télévision dans sa poche avec une, deux, trois, quatre caméras, le nombre de caméras qu'on veut. elles se vendent à l'unité 439 $ ou en paquet de 3 pour 1250 $. Donc, en partant, c'est pas super abordable. On peut avoir une bonne caméra web pour son ordinateur pour vraiment moins que ça. Mais c'est pas exactement le rôle de ces appareils-là. C'est vraiment, si vous voulez faire la captation en direct, on parlait de live shopping tantôt, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Tu sais, les commerçants qui cherchent une façon de faire du direct. On peut, grâce à ces caméras-là, créer vraiment 3 points de vue différents et tout gérer ça à travers une seule application. Seulement en tapotant du doigt sur l'écran, on fait des changements de caméra. C'est vraiment comme un produit de amateur, même si c'est pas vraiment amateur, de production de bonne qualité quand même.
Pardon? Est-ce qu'on va dans le prosumer, le consommateur averti qui veut avoir un mini? Puis quand tu dis l'image du mini studio de diffusion, c'est vraiment ça. Tu peux, comme avec les enregistrements télé, tu as 3 caméras, donc tu peux
exactement
avoir un gros plan.
Chaque caméra est grosse comme un jeu de cartes environ. Oui. C'est un drôle de format, mais cela dit, ça permet de faire une image pleine HD. Chaque caméra donc produit une image de 1080p. Chaque caméra a aussi 3 micros intégrés qui permettent de faire de l'annulation du bruit et d'aller chercher le son sans micro branché. Donc vraiment comme un téléphone le ferait ou comme une caméra. Mm-hmm. On dit plus ça, caméra numérique, ça n'existe plus. Il y a une fente pour 4 micros SD, donc on peut stocker localement la vidéo qu'on produit. Il y a une entrée audio, le fameux jack, comme ils disent en France, ouais, le jack audio.
Ceux qui travaillent avec un micro à fil, c'est vraiment,
exact,
vraiment
donc
fun.
Une entrée de 3,5 mm. Écoute, Jack Audio, ça pourrait être le super-héros d'une espèce de film weird. Là. Cet homme a une voix démente.
Jack Audio.
Il y a un port USB-C qui permet évidemment de charger la batterie de l'appareil, parce que l'appareil vient avec une batterie et ils annoncent, je pense, 6 heures d'autonomie, mais vraiment, c'est comme 4 heures d'autonomie, parce que quand on les utilise et qu'on les utilise en réseau, Ça draine aussi l'autonomie un peu plus. Je parlais de réseau, il y a une connexion Wi-Fi intégrée, il y a une connexion Bluetooth intégrée. On peut les jumeler, les configurer à travers un signal Bluetooth à partir d'un téléphone, d'une tablette. On peut les connecter au même réseau Wi-Fi pour les commander les 3 séparément. Je dis les 3 parce que dans un paquet normal, il y a 3 caméras, mais on peut en mettre 2, on peut en mettre 4. C'est assez fascinant parce que tout ça se contrôle à travers une application qui est l'application Mevo, M-E-V-O, qui est vraiment le petit studio portatif, vraiment le cœur de toute la machine. Ça permet de gérer le groupe de caméras, ça permet de ensuite brancher tout ça en direct sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Twitch, Facebook, ailleurs, le fameux protocole RTMP, là, que si vous avez déjà fait un petit peu de streaming, comme on dit en bon français, vous connaissez, là. Il y a des façons de se brancher via le service Vimeo, qui est le YouTube des pauvres, à plusieurs services en simultané. Ah, juste une blague. Mais c'est un beau service, mais c'est moins connu, Vimeo. Mais il faut payer un forfait producteur qui coûte, je vais dire, 400 $ par année ou quelque chose comme ça pour, à ce moment-là, être en direct en même temps sur différentes pages Facebook, sur différents sites YouTube, et ainsi de suite. C'est fascinant parce que je vous fais une liste de capacités, puis c'est comme, waouh, on peut tout faire. Et oui, ça fonctionne extrêmement bien. C'est extrêmement souple, extrêmement polyvalent. C'est fou. C'est rare que je suis emballé, puis on s'entend que c'est un produit de niche. Pas tout le monde qui a besoin de ça, mais si ça vous tente de vous lancer dans la production de vidéos web, c'est vraiment, à mon avis, la trousse de départ qu'il vous faut. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez, si vous êtes juste curieux, en acheter une, et vous pouvez la brancher par USB à un ordinateur, et elle peut servir de caméra web. Et comme l'image est 1080p et le son est aussi quand même pas mauvais, ça fait une belle caméra web, une bonne image pour votre Zoom, pour votre Teams ou peu importe. Et il y a aussi un logiciel que Logitech a mis, je pense qu'il est encore en bêta, mais je ne suis pas sûr, qui permet de configurer ou en tout cas de contrôler les caméras aussi par Wi-Fi à partir de son ordinateur personnel, que ce soit un Mac ou un PC. Sauf que c'est là, à ce moment-là, c'est une caméra à la fois. Donc, si vous faites du Zoom, puis vous dites, hey, j'ai 3 caméras, puis je peux jouer avec, il faut les brancher par USB. Et là, ça prend 3 ports USB, donc ça prend au moins un concentrateur, là, un pont, un hub, comme on dit en bon français. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et pour ceux qui, justement, se demandent, parce que là, je parlais de YouTube, Twitch, tout ça, il y a l'application mobile propriétaire, donc Mevo qui permet de le faire, mais il y a aussi des logiciels pour ordinateur. Ceux qui font un peu de balado connaissent probablement OBS, qui est l'espèce de logiciel libre de droit, open source, qui est lui aussi une espèce de studio virtuel de poche pour ordinateur, qui est populaire auprès des gens qui font beaucoup de vidéos. Elles sont compatibles, donc elles font vraiment la job, on dit à bon français. Moi, j'étais vraiment convaincu, à part leur prix qui était un peu élevé, puis les limites du contrôle par Wi-Fi quand on est sur un ordinateur personnel, j'ai très peu de critiques à faire. J'ai une crainte, cependant. Quand on a commencé une tasse de tech, on le faisait en époque pré-pandémique, on le faisait en personne, dans un café, chez Osmo, à Montréal, et on faisait ça avec une seule Mevo. Et ça fonctionnait déjà très bien. Et celle-là fonctionne aussi très bien. Mais entre-temps, Logitech est entré là-dedans. Et Logitech, ils ont un catalogue d'outils pour podcasters. Ils appellent ça d'ailleurs les Tools for Podcasters. Et ça, c'est sur leur site français. ce qui est quand même pas rien. Et j'ai l'impression, parce que Logitech, on le sait, c'est une grosse compagnie, ils ont tendance à rendre les choses plutôt génériques, à enlever l'espèce de petite valeur ajoutée de certains produits. Donc, je crains que l'effet Logitech sur ces produits-là, au fil des mois, soit pas optimal. C'est-à-dire qu'on souhaite que ça finisse par coûter plus cher ou que ça finisse par moins bien marcher. Ou... J'ai un peu des craintes, mais c'est pas concret dans le sens où, en ce moment, si vous mettez la main sur ces appareils-là et que vous voulez faire de la vidéo en direct, c'est extrêmement dur à battre. Mais le futur est incertain. Je veux dire ça comme ça.
L'avantage d'avoir une petite régie télé chez soi à la maison, c'est vraiment chouette. Moi, la chose que j'aurais aimé de ce produit-là, il a quand même été annoncé, il y a un petit bout de temps, il est offert depuis un petit moment, c'est qu'on ne peut pas contrôler la caméra si on est sur un réseau Wi-Fi externe. Il faudrait regarder peut-être avec un VPN si on peut se connecter à sa maison. Je
oui,
sais
ça
pas.
Serait intéressant d'avoir un invité ou à qui on envoie une caméra. Tu le disais tantôt, c'est vrai, c'est un bon point. Ça.
C'est ça, parce que ce que ça permettrait, si on pouvait contrôler une caméra à distance, là, les gens vont dire « oui, mais c'était peurant, la vie privée et tout ». Non, non, mais pour une question de régie, disons, je fais le podcast chez moi, tu es chez toi, tu pourrais aller avec la régie, je pourrais démarrer la caméra et là, tu pourrais faire le switch, la régie d'une caméra à l'autre à distance, même si on n'est pas dans la même pièce.
On pourrait le faire...
maison, dans le même réseau pour contrôler ces caméras. Je trouve que c'est une énorme limite que trois podcasteurs puissent avoir en réseau un peu partout dans le monde, qu'un régisseur puisse changer les caméras. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment...
On pourrait faire un bulletin météo avec notre météorologue qui serait présentement devant le pont Jacques-Cartier. Là, on pourrait contrôler ça à même l'application Mevo. Ça serait effectivement intéressant comme concept. Mais non, effectivement, il n'y a pas ça. C'est une limite définitivement de cet appareil-là, mais peut-être un jour, on ne sait pas, si on insiste.
L'option pour s'en servir comme webcam marche très, très bien. Vous dites, oui, mais j'ai déjà une bonne webcam. Oui, mais tu peux, des fois, pour des présentations, tu peux changer le mal de place. Tu peux changer d'une webcam à l'autre dans la plupart des applications. Donc, ça peut être une belle, belle, belle option.
J'ai essayé. C'est drôle parce qu'on les a pas utilisés dans le cadre de notre balado, parce que là, on fait plus en audio.
Encore?
Il faudrait déballer, il faudrait sortir les trépieds, tout ça. On va les essayer, puis on pourra en reparler à ce moment-là, sans problème. Mais sinon... Et je tiens à le dire, il y a la version audio d'une tasse de tech et vous pouvez évidemment l'écouter, on l'a toujours dit, hein, sur les plateformes Apple, Google, Spotify, tout ça. On va se retrouver désormais aussi sur le site du 98.5, 98.5FM.ca et sur les pages Facebook du groupe C23. Donc, on risque d'être plus intéressant, plus facile à trouver à partir de là.
On va rappeler nos partenaires. Merci beaucoup à tous ceux qui rendent le podcast possible. Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, CyberGhost VPN et C23 pour les petites nouvelles le matin express. Merci infiniment, Alain McKenna. C'est un beau retour en 2022.
Ça fait plaisir, Pascal Forget.
Non, mais c'est important de se nommer pour les gens qui ne nous voient pas, Alain.
Tout à fait raison. Vous aurez compris que c'est la fin de notre balado. On prépare quelque chose d'intéressant pour vous la semaine prochaine et on vous revient. Manquez pas ça. C'est drôle parce que d'habitude, on le disait, hein, on est en direct le jeudi midi, mais ce n'est plus le cas. On va quand même continuer l'habitude de diffuser de la vidéo, mais ce sera moins direct. On vous recommande quand même d'aller écouter en fait notre version audio parce qu'elle est toujours très disponible, très gratuite, très présente sur nos plateformes. Il y en a du stock. On est rendu à 6 saisons et demie. Donc, prenez l'occasion d'écouter ça. Il y en a du bon stock. Il y a des NFT, puis il y a tout ce qui est venu avant. Donc, manquez pas ça. On vous souhaite sinon une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine, et on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
Salut.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.